San Fernando, Los Angeles, années 70, une époque où les gens étaient plus poilus qu'aujourd'hui. C'est la fin de l'année scolaire et les vacances d'été sont imminentes. C'est à ce moment-là, alors qu'il fait la queue pour sa deuxième dose de vaccin, que Gary, jeune adolescent, acteur et réalisateur de 15 ans, a le coup de foudre pour Alana, la pionne de son lycée. C'est certain, il la voit déjà comme sa future femme. Problème, elle est beaucoup plus vieille que lui. Mais pourtant, la summer vibe de l'été californien va les rapprocher, car Gary en fait l'actrice principale d'une de ses petites productions Super 8, et à partir de là, une romance naît. Mais au retour des vacances, les cartes sont rebattues lorsque John Peters, célèbre producteur de films hollywoodiens, décide de tourner dans leur patelin un remake du stage bonus Destruction de voitures de Street Fighter 2. Gary sera engagé sur le film pour un rôle, et c'est à partir de là que la jalousie va faire vriller son histoire naissante avec Alana. D'un côté, Gary s'amourache d'une fille de son âge, et de l'autre, Alana, pour se venger, décide de flirter avec Sean Penn. Rien que ça. Le star system emportera alors tout sur son passage, faisant plonger Gary dans des bails sales qui lui vaudront de gros problèmes avec la police locale. Oui, il semblerait que Gary traîne dans des histoires sombres de coco. Coco ? Communisme ? Cocaïne ? Là est la question. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier film de Paul Thomas Anderson dans l'épisode 72. Et on peut déjà dire qu'on était complètement à côté de la plaque.
Oui, on s'est fait eu.
Il n'y avait même pas de pizza dans le film, quoi.
Pas de réglisse, rien.
Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille, et nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de Licorice Pizza. DJ,
kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul !
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Licorice Pizza, le dernier film de PTA, Paul Thomas Anderson. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa BA, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de pizzaiolo cinéphile qui agrémente de leurs recettes originales la carte de la pizzeria de Feta Bea. Souvenez-vous Kevin qui était venu nous présenter sa kebabini.
Kebabini delicioso.
Même avec l'accent italien, ça a l'air dégueu.
Saladi, tomati, onion.
Saladi. Oh mon dieu. Johanna et sa pizza limoncello pato pesto.
Ah la base. Voilà. J'ai rajouté plus de variétés de pâtes.
Voilà, il manquait plus que les gondoles à Venise et on avait toute la carte postale.
Ça, ça pas.
Clément et sa version revisitée de la chèvre miel avec la chamois érable. Ça a l'air délicioso tout ça.
Pas vraiment non.
Martin qui nous présente, qui n'était pas là pour l'épisode BR, mais qui a une pizza à nous présenter.
Bien sûr, je suis né avec une pizza, c'est la barba pizza.
La barba pizza.
C'est une pizza avec du sucre.
C'est ça qu'on aime. Et puis avec Clément, c'est son infâme pizza à la nana.
Alors... Oui, mais alors si on pouvait revenir dessus, c'est très bon.
Oui, il y a eu débat, mais je fais partie de la team de ceux qui trouvent ça bon, évidemment. On va pas relancer le débat. Hein.
Bien, je vous en ai ramené aujourd'hui.
Et on l'a pas mangé.
On a enlevé les ananas.
Ils sont au compost. Enfin voilà, si vous comprenez rien à ces présentations, on vous invite évidemment à aller écouter notre épisode autour de la BA, donc l'épisode précédent, celui-là. Là, on va vous donner nos avis, notre critique autour du film de Paul Thomas Anderson. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on se situe, nous, vous aussi, en termes de spoil pour cet épisode. Et pour ça, on a notre ami El Calculator, évidemment, qui va nous dire tout ça. Bonjour El Calculator.
Salut les 70s.
Ça va ou quoi ?
Ça va bien. Tranquille la famille.
Alors, où est-ce qu'on va situer en termes de spoil pour cet épisode ?
Je pressens que vous allez spoiler à hauteur de 70%.
Ok.
Piou.
Non, pas piou.
Pas tu. Tu.
Voilà, reviens. Reviens, parce que là, avant de se lancer évidemment dans nos avis.
Quand tu le rallumes.
Avant de se lancer dans nos avis, il va falloir qu'on résume l'histoire, la vraie histoire du film, la vraie réalité, parce que nous, on était complètement à côté de la plaque, comme vous avez pu l'entendre.
C'est pas faux.
On s'est fait des films un peu trop lointains.
Filmesque. Hein.
Alors, qu'est-ce que ça raconte ce film en vrai ? On va désigner au hasard, grâce à la roue de la chance de Feta Bea, qui va résumer le film cette semaine. El Calculator, c'est toi qui as cette fonctionnalité de la roue de la chance.
Activation, la roue de la chance.
Yeah.
Clémence.
Ah,
tu dois résumer le film.
D'accord.
El Calculator, t'as un truc contre les Clem?
Non, je les aime bien.
Oh, merci.
On se demande pourquoi.
Je vois pas ce que tu veux dire.
Clémence, Licorice Pizza, qu'est-ce que ça raconte?
Ça raconte, on avait quand même au moins senti une chose en regardant la BA, c'est que ça raconte une rencontre entre Gary, un lycéen, et Alana, une fille dont il va tomber amoureux instantanément.
Ça, les années 70 aussi, on avait juste.
Les années 70. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le tout début du film. Il est au lycée pour faire sa photo annuelle.
Ouais, fin d'année, ouais, je pense.
En fait, alors, elle n'est pas lycéenne, elle a 25 ans et elle travaille pour celui qui fait les photos et elle est là comme assistante et il la repère alors qu'il est dans la file et il l'accoste pour lui demander de sortir ensemble. En fait, il lui propose un resto et tout, donc là commence leur relation. Et ensuite, le film va en fait, sur un certain temps, raconter cette relation qui n'est pas de tout repos. Parce que lui, de son côté, a un crush sur elle et en même temps, il est encore très 15 ans à vouloir quand même voir d'autres filles. Il a aussi très envie de relations sexuelles, par exemple, et je crois qu'il ne l'a pas tout de suite. Et il a ses propres projets, il se voit un peu devenir comédien star et en fait, ça ne va pas être le cas, mais il va essayer de rebondir. Il a plein de projets, il est un peu opportuniste dans le sens où il voit tout ce qui peut marcher.
C'est un petit capitaliste en herbe.
Un petit capitaliste en herbe, il joue au petit homme. Et puis elle s'attache à lui, mais en même temps, elle n'arrive pas trop à lui dire « je t'aime » parce qu'il l'utilise toujours un peu, en fait. Voilà, et puis c'est pareil, elle aurait envie de réussir, de donner du sens à sa vie, et donc ça va, ça vient, ils sont ensemble, ils ne sont pas trop ensemble, ce n'est pas très clair, voilà, jusqu'à la fin.
Voilà, l'histoire de deux personnes qui se cherchent et qui vont rencontrer, évidemment, sur leur chemin, avec toutes ces péripéties de matelas à eau, de flipper... C'est très mal détaillé comme ça, mais deux personnages, ils vont rencontrer des personnages hauts en couleur sur leur chemin. On va en parler tout de suite de ce film et vous dire ce qu'on en a pensé. À commencer par comparer sa BA au film et ça s'appelle la rubrique du douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Avant de se lancer directement dans nos avis de ce qu'on a pensé du film, il faut qu'on compare la BA qu'on s'est faite la semaine dernière avec le film. Est-ce que cette BA nous a douillé ou pas? C'est le douille ou pas douille. Johanna, douille ou pas douille?
Pas douille du tout.
Pas douille du tout. Juste pour rappeler, on avait été tous été très emballés par la BA. Clémence, douille ou pas douille?
Pas douille.
Pas douille, Clément.
Pas douille, pas douille. Tous les ingrédients que j'attendais.
Pas du tout, Kevin.
Bon, moi je dirais que c'est une... je vous prépare un truc. Non,
c'est pas vrai. 70 douille.
Non, je trouve que c'est quand même une douille scénaristique parce que dans la BA, j'avais pas du tout capté que ça allait partir dans cette direction-là. C'est pas une douille qualitative parce que c'est la qualité attendue. Mais j'ai un micro SDA parce que j'ai fait l'erreur de faire la revue de presse avant de voir le film.
Ah bah oui.
Non, de l'attente.
Mais enfin, il est fou. Et toi, Martin, douille ou pas douille?
Alors, moi, c'est un peu l'inverse. Ça fait partie des films où je voulais pas trop regarder la BA parce que j'étais très très chaud sur ce film. Donc, j'ai vraiment aperçu un peu l'ambiance du film. Et du coup, bah, pas douille parce que j'ai beaucoup aimé le film. Et puis, parce que le peu que j'avais vu de la BA, c'est reflété dans le film. C'était plus, j'avais un peu capté l'ambiance, les couleurs, tout ça. Donc, pas douille du tout.
Puis, inutile de dire que Paul Thomas Anderson, tu l'as un peu dans le sang, quoi.
Oui, c'est vrai que tu fais référence à cette récente vidéo que j'ai sortie, c'est ça?
Ah, bah oui, peut-être. Ah bon?
En fait, oui, cet été, j'avais lancé, en début d'année 2021, j'avais lancé une chaîne YouTube Ciné Club, avec un cul, si vous voulez aller voir, et sur laquelle j'essaye de m'intéresser à des réalisateurs. Donc, j'avais fait une vidéo sur James Gray, puis sur Nicolas Winding Refn. Et là, très récemment, j'avais, à l'occasion de la sortie du film, j'ai sorti une vidéo sur Paul Thomas Anderson. Et en gros, j'ai passé tout mon mois de décembre avec lui à lire plein de bouquins, des articles, des trucs machin. Donc, oui, j'étais à fond avec le réal. Donc, j'attendais beaucoup ce film.
Ce qui a donné une vidéo très intéressante.
Et très, très cool. Ouais.
Et je dis pas ça parce que t'es notre pote. Je dis ça parce que c'est la vérité.
Merci.
Et d'ailleurs, vous la trouverez en lien.
J'ai appris plein de choses d'ailleurs en écoutant ta vidéo.
Et vous la trouverez en lien dans la description cette vidéo. On en a déjà parlé dans l'épisode BA, mais cette fois-ci, vous pourrez juste cliquer sur le lien. Si ça vous intéresse, allez donner de la force à Ciné Club, la chaîne.
Mais d'ailleurs, il y a peu de littérature sur Paul Thomas Anderson. Il y a très peu d'ouvrages.
Ah ouais. Ouais, c'est ouf, il est assez sous-côté en fait.
Il n'y a aucun livre genre en français par exemple.
Bah, il y a les contes d'Anderson, mais ça n'a rien à voir.
Et toi, Romain, douille ou pas douille?
Pas douille, comme vous tous, pas douille. Écoutez, la BA était enchanteresse. Elle
promettait un film léger, enfin bref, oui, non, vraiment subjugué par ce premier film de l'année. Et ça fait plaisir de commencer sur un Padouille à Feta Bea. Et on va en parler tout de suite plus longuement de ce film avec vos avis. C'est parti, on se lance. Qui veut se lancer? Qui veut nous dire ce qu'il a pensé de Licorice Pizza? Ah, je vois que personne.
Vas-y, désigne un élève au hasard.
Oui, désigne un élève.
Allez, Clémence, lance.
Ah
oui.
C'est ma fête aujourd'hui.
Oui, bonne fête.
J'ai bien aimé globalement le film. Après, peut-être que je suis un tout petit peu moins enjaillée que certains de vous. Comment dire, je l'ai vu ce matin, donc c'est encore très frais. Mais ce que j'ai ressenti pendant la durée du film, c'est quand même des fois un peu de longueur. C'est-à-dire que dans le rythme, ça reste du PT1. Hein. C'est peut-être un de ses plus accessibles, mais
Ça retombe un peu.
Mais je retiens quand même de super scènes et de super personnages. Je vous dis juste avant de parler du couple phare, mais j'ai adoré les scènes avec Sean Penn et avec Bradley Cooper.
Ah, c'est...
Parce qu'en plus, c'est deux registres complètement différents. Enfin, il y a de l'humour dans le film. Par exemple, avec Sean Penn, c'est très drôle parce que c'est l'acteur qui se la joue viril, typique, qui s'auto-cite, qui auto-cite ses répliques. C'est un peu comme DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, quoi, par exemple. Et dans une espèce de bromance avec un réalisateur, Tom Waits, quand ils se retrouvent, là, ça y est, la fille qui est là, elle n'existe plus. Ils sont là en train de se lancer des fleurs tous les deux.
Ils sont complètement fous.
Ils sont complètement fous, c'est très drôle. Et puis à côté de ça, la scène avec Bradley Cooper, en fait, ça fait presque peur. Enfin, il glace le sang, Bradley Cooper. Il y a de la tension, quoi, parce qu'il profère une menace vis-à-vis du héros. Et après, ça part un peu en n'importe quoi, enfin en steak. Et en fait, ils sont là en train de le fuir. Et il est toujours là, il réapparaît toujours comme Ghostface dans Scream, tu vois. j'ai bien aimé ces scènes-là. Donc voilà, il y a vraiment des bons moments. Et sinon, au-delà de ça, en fait, c'est bizarre parce que j'ai aimé beaucoup le film du point de vue d'Alana. Je me suis beaucoup identifiée à elle. Et d'ailleurs, j'ai quand même l'impression que l'histoire, elle tourne plus autour d'elle que de Gary. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça montre quand même à quel point elle, en tant que femme, dans ces années 70 et dans ce couple avec un mec qui a pourtant 10 ans de moins qu'elle, elle est quand même assez manipulée et elle se fait un peu avoir quand même.
Bah elle est perdue surtout, c'est ça à la base.
Je sais pas, en fait tu vois, on a l'impression qu'elle va aller voir d'autres gars et tout, mais souvent elle va voir d'autres gars parce qu'elle est blessée, parce que lui avant, lui fait des choses quand même, tu vois, il se laisse amadouer par une autre fille dans l'avion, donc elle après elle réagit. Une autre nana lui dit que ah oui, c'est pas elle la première avec qui il sort comme ça et qui l'emmène au resto, machin. Elle comprend un peu petit à petit qu'il a quand même souvent l'habitude de draguer des nanas comme ça et de leur faire cette déclaration et de leur sortir le grand jeu. Et il a que 15 ans, quoi. En fait, le gars se la joue très petit homme comme les grands.
Il a grosse confiance, quoi. Il a vraiment la grosse confiance.
Et je trouve qu'il est pas tendre avec elle, tandis qu'elle, justement, même quand elle essaye d'aller avec d'autres hommes, à chaque fois, c'est un peu à son détriment, en fait. Elle est assez victime. Elle est même victime des fois de choses vraiment dérangeantes, quoi. Avec Bradley Cooper, par exemple. Enfin, il y a vraiment agression,
ouais.
En fait.
Ouais, il y a cette espèce de truc qui traîne où elle est un peu l'objet du désir.
Elle est
quoi.
Un peu l'objet, voilà. Ça montre vachement bien, je trouve, ce déséquilibre dans la relation homme-femme, entre la femme très objet et le mec qui est en mode sujet et qui pense qu'à lui et qui l'attire
aussi.
Par la main, quoi.
Avec son père aussi.
Ouais, il ouais. y a une relation avec les hommes qui est aussi un témoignage des années 70.
Comme toujours chez PTA.
Et notamment, ouais. Oui, la relation familiale où le père, on se rend compte que le père est très protecteur de sa fille, mais qui est ce genre de protecteur qui n'hésite pas à gueuler quand il faut.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans sa famille à elle, elle est quand même pas victime pour le coup. Enfin, je trouve qu'elle a un caractère. Ce que montrent bien les scènes dans sa famille, c'est qu'elle se laisse pas faire, même par son père, à un moment, elle lui gueule dessus. Donc, c'est pas là qu'elle est le plus fragile, mais par contre, c'est vraiment dans la relation amoureuse qu'elle est fragile. Ouais. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle a du mal à dire je t'aime au gars qui lui plaît pourtant, parce qu'il y a des choses qui lui plaisent en lui, parce que j'ai l'impression qu'elle est sans cesse dérangée par la manière dont il se comporte. Elle a une espèce de dilemme intérieur, c'est pour ça qu'elle se la joue un peu froide, c'est parce qu'elle aimerait qu'il se comporte autrement vis-à-vis d'elle, quoi. Et du coup, moi j'ai aimé le film voilà, par ce regard-là d'elle. Par contre, le Gary... Bah, il était un peu antipathique pour moi par moment, et j'aimerais avoir du recul en tant que spectatrice et me dire c'est pas grave, c'est intéressant, mais quand même, des fois, moi, l'histoire d'amour me plaisait plus tant que ça, parce qu'en fait, au fond, j'avais pas envie qu'elle soit avec lui, quoi.
Ouais. Voilà. Mais c'est des amours, moi, ce que j'appelle magnétiques, dans le sens où, tu sais, quand tu prends deux aimants et que t'essayes de les faire se rencontrer, il y a toujours une force qui les oppose. Mmh. Et j'ai l'impression que tout le film, c'est ça, quoi. Ce sont deux aimants qui arrêtent pas de se repousser, mais en même temps.
Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est vachement de sa faute à lui, en fait.
Après, elle a une scène où elle l'humilie quand même. Vachement, mmh. Elle est vachement dure avec lui à un moment donné quand il veut investir dans les flippers et tout là. Il y a une scène vraiment où elle.
Oui, mais t'as vu. Enfin, je trouve que c'est là que ça apparaît qu'il est toujours en mode.
Mais il y a une dynamique entre eux de chien et chat quoi.
Ouais, après tu trouves qu'elle l'humilie, mais lui, il est hardcore aussi avec elle. C'est.
Je trouve qu'il est pire avec elle.
Oui, je trouve qu'il est pire.
Je suis d'accord, mais bon, elle est pas non plus.
Et c'est, tu l'as dit, c'est peut-être un des films les plus abordables de Paul Thomas Anderson dans le sens où c'est un peu décomplexifié. Par rapport à ces autres films qui interrogent plus l'aspect psychologique de ces personnages et qui parfois nous emmènent sur des sentiers où tu dis what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Là, c'est vrai que le film, si vraiment vous avez envie de faire découvrir Paul Thomas Anderson à quelqu'un, peut-être commencer par celui-là avant de rentrer dans le lourd des There Will Be Blood ou Inherent Vice ou d'autres films un peu plus torturés. Quoi. Mm. Donc, ouais, mais c'était vraiment ça. Moi, j'ai vraiment kiffé cette légèreté de ton. Tout en même temps nous apportant une réflexion sur l'époque et sur, ben, sur l'amour adolescent. Quoi. C'est très beau et c'est très drôle aussi. C'est très drôle. Moi, c'est peut-être le film de Paul Thomas Anderson le plus drôle. Quoi. J'ai tapé des barres mais à la scène du camion.
Ouais, avec Inherent Vice, c'est un peu le même humour. Ouais,
Inherent Vice.
Un peu le même humour que
je trouve qu'il n'est pas si léger que ça, ce film. Je trouve qu'il est faussement léger. C'est un peu un bonbon acidulé. Quoi. Parce que je trouve qu'on a quand même vraiment un message de cette époque-là, des années Nixon, qui est vraiment pas... Il n'y a pas de nostalgie, je trouve, dans ce film-là. Tu vas suivre la quête amoureuse de deux personnages pour décor les années 70, mais en fait, je trouve que tous les événements marquants sont des événements annexes à la résolution de leur histoire d'amour. Ça va être la campagne avec le candidat qui est gay et qui veut se cacher. Ça va être... la crise pétrolière, ça va être toutes ces choses-là en fait, le Vietnam. Et puis comme disait Clément, je trouve qu'il y a vraiment un discours sur comment, avec Alana au centre, comment les femmes et les communautés, on va dire pas dominantes quoi, étaient traitées aussi à cette époque-là. Et j'ai vraiment l'impression que Peta, il voulait nous parler un peu de ça aussi. Et que faussement, bien sûr ça parle d'amour, mais faussement c'est pas le sujet du film. C'est ce qui va nous guider, si on connaît.
C'est en fond, en fait, c'est en contexte.
Non, c'est plutôt le guide, parce qu'on connaît.
C'est pas vraiment des
d'amour.
Choses qu'ils vont subir, mais c'est des choses que les gens autour d'eux vont subir, c'est et ça va créer le contexte
c'est,
aussi.
En utilisant une histoire d'amour, un sentiment qu'on connaît et qu'on expérimente tous, il va nous emmener et nous donner son portrait de cette époque-là, quoi. Et c'est ça que je trouve passionnant dans ce film-là, surtout. Plus que l'histoire d'amour en elle-même qui. Somme toute assez classique et pour moi c'est vraiment pas le plus important quoi.
Mais il y a un truc un peu symbolique, c'est au tout début quand ils se donnent rendez-vous et au fond elle est un peu contente, tu la vois qui sourit, il se quitte, il sort lui du gymnase et elle revient face caméra et elle sourit, elle est un peu en mode envoûtée et elle se prend une main aux fesses et après ça coupe très vite derrière mais tu vois que ça lui enlève le sourire et il y a un mec comme ça, le photographe qui lui fout la main aux fesses au passage. Et ça, pour moi, c'est assez symbolique de... Voilà, c'est en effet une histoire d'amour et en même temps, derrière...
Et t'as un discours aussi sur la violence policière à un moment qui était assez fort, je trouve.
Mais c'est intéressant parce que du coup, tu sens que ce petit gamin de 15 ans, là, il est un peu il est en devenir de ces adultes qui sont un peu pervers, dégueulasses, et qui traitent la femme genre en mode « je te mets une main aux fesses parce que ton cul s'est présenté devant moi, donc il n'y a pas de raison d'eux ». Pareil avec Sean Penn qui du coup met ses couilles sur la table et essaye d'embobiner un peu la meuf pour la tirer dans son lit clairement ou Bradley Cooper, enfin bref, tu sens que ce personnage là de Gary est un peu un Bradley Cooper en devenir ou un Sean Penn en devenir et que justement elle va lui apprendre leur relation va l'apprendre à lui à sortir de ça en mode te ploter. Il a des idées comme ça au départ et puis en fait tout le long du film j'ai l'impression qu'il met ça de côté, il apprend plus à aimer qu'à profiter,
j'ai une lecture un peu plus pessimiste de ce film là j'ai l'impression que à la fin c'est le trophée quoi. À la fin, il arrive dans sa boutique de flipper qu'il a monté, l'entrepreneur, c'est la meuf le trophée. Enfin, j'ai l'impression que c'est vachement plus ambigu qu'on peut le croire.
Qui veut l'épouser.
Ouais, c'est intéressant, il y a des manières différentes de voir les choses.
Même tu vois, après la scène du camion, quand elle les regarde, lui et ses potes en train de remplir le réservoir du camion, ils sont en train de jouer avec les bidons en mode comme si c'était leur tub et tout. Enfin, pour moi, cette scène, c'est vraiment genre, c'est là que je me suis dit, c'est son regard à elle. Et elle l'aime, mais en même temps, elle se dit...
En fait, tout le film, c'est ça. Il y a toujours un moment où il se rapproche et puis il y a un moment où il s'éloigne. Et souvent, c'est par des petits déclics comme ça où je me dis, en fait, ils sont trop puérils. Qu'est-ce que je fous là? Faut que je me casse. Il faut que j'aille prendre ma mieux en main. Et du coup, je vais aller aider ce gars-là dans sa campagne politique.
Qui est pas mieux.
Qui est pas forcément mieux. Donc, il y a un peu différents portraits de masculin, pas forcément ragoûtant dans ce film. Martin.
Déjà je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Je suis moins pessimiste que, enfin j'ai une vue moins pessimiste à la fois sur le fond du film comme tu disais Kevin, et à la fois sur le personnage masculin. Je suis d'accord avec Clément, je trouve que le film tourne plutôt autour du personnage féminin, autour de son point de vue. Mais lui je le trouve moins, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti le personnage. moins pétri de malice ou de mauvais sentiments. Il est, je sais pas, il a l'air un peu ingénu. Je sais pas, je l'ai trouvé plutôt sympathique et c'est quand même lui qui fait les premiers pas dans la séduction. Mmh. C'est lui qui veut la séduire et je pense que c'est un peu elle comme lui, comme on disait, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Ça, c'est pour le, ce que je pensais pour leur relation. Et par rapport à ce que disait Kevin, bon, j'en reviens à ma vidéo, hein, je suis désolé, mais parce que tu m'y as fait penser, c'est vraiment la conclusion de ma vidéo dans laquelle je dis que, enfin, ce que j'ai compris un peu de l'œuvre de Paul Thomas Anderson, c'est que, effectivement, dans pratiquement la plupart de ses films, il fait comment dire, un portrait de l'Amérique à différentes époques, qui est souvent un portrait assez critique, assez, assez sombre, mais que, au-delà de ça, enfin, derrière ça, il a souvent foi dans les humains et c'est souvent des belles histoires humaines. Sur des fonds historiques un peu tristes. Donc je dissocierais pas trop les deux. Je pense que c'est vraiment souvent ça, je trouve, c'est lui. Chez lui, c'est un vrai parallèle entre un regard large sur l'époque et un regard plus centré et plus, comment dire, plus sympathique et plus tendre sur les personnages.
Et on peut dire aussi peut-être que les années 70, c'est peut-être sa période préférée, vu que c'est déjà au moins son troisième film là, qui a le même contexte.
Inherent Vice. Inherent Vice, Boogie Nights. C'est plus 80.
70-80. Ouais, fin 70, il y a même... Ouais.
Et celui-là.
Et je rejoins Kevin, parce qu'effectivement, je pense qu'il a une vraie tendresse, il le dit souvent dans les interviews, tout ça, il a une vraie tendresse pour cette époque, pour cet endroit.
La musique.
La musique, pour le lieu qu'il a vu grandir. Mais effectivement, on sent clairement une grosse critique quand même.
Et pour ses comédiens aussi, parce que...
Ouais. Oui, c'est, pas, c'est ce que j'allais dire.
C'est ce que tu allais... Bah, dis-le nous.
Non, j'allais dire, il y a des trucs que je trouve assez émouvants dans le film, c'est que je trouve qu'il a une vraie tendresse pour la jeunesse. Il a une vraie tendresse pour ce personnage féminin. Et c'est assez rare chez lui. Je crois que jusqu'à présent, tous ses personnages principaux étaient masculins. Et j'ai trouvé ça d'autant plus émouvant que c'est Alana Haim qui l'a vu grandir. En fait, la mère des sœurs Haim, donc qui sont vraiment des vraies sœurs dans le film, a été la prof de Paul Thomas Anderson. Et du coup, il les a vues grandir. Il a réalisé pas mal de leurs clips. Et en fait, il dit lui-même qu'il les trouve fascinantes en tant qu'artiste et en tant que femme. Et du coup, il met les trois sœurs avec leur vrai prénom dans le film. Clément et moi, on connaît un peu leur musique, on est un peu fans de ce groupe, donc ça nous a amusé de les voir comme ça. Et en fait, ouais, je trouve qu'il a un vrai amour pour ses personnages dans sa façon de filmer. Il est très près des personnages à chaque fois, avec des beaux plans rapprochés, mais qui sont pas étouffants. Parce que souvent, quand tu utilises des plans rapprochés comme ça, c'est pour enfermer les personnages. Et là, tu sens qu'il a envie de les filmer de près. Ils sont pas maquillés. Donc lui, il est avec ses boutons d'acné, elle aussi avec ses petites imperfections. Et il y a un truc où ça crée, tu t'identifies facilement au personnage, ça paraît vrai. Et en plus, comme ça traverse une certaine époque qui est en toile de fond, je trouve que le tout fonctionne assez bien. Et que contrairement à un Once Upon a Time où c'est un peu iconisé cette époque-là, genre c'est un peu le joli Hollywood. Ouais, voilà. Là, c'est dans une banlieue.
Là,
en plus.
San Fernando, donc là où ouais, a c'est grandi...
C'est ça. Donc en plus, c'est une banlieue et tout ça. Et je trouve que j'ai bien aimé cette autre façon de montrer ce Los Angeles à cette époque-là. Quoi.
Oui, j'ai trouvé ça très intéressant de parcourir des rues de Los Angeles sans qu'on ait en fond... il existe des stars qui viennent comme ça, mais sans non plus ramener Hollywood ou qu'Hollywood soit au centre du film. C'est vraiment des choses qui gravitent autour et qui emplissent un peu les rêves des personnages sans pour autant devenir le sujet principal.
Ouais. Mais ce qui a rendu d'ailleurs la série Insecure d'Issaré iconique aussi, c'est que ça se passe à Los Angeles. T'as pas un seul plan avec le panneau Hollywood ou quoi que ce soit. C'est vraiment une autre expérience de Los Angeles. Quoi.
Super intéressant. Et le rapport avec Once Upon a Time est marrant. Quoi. Ouais. Vraiment ouais. L'envers, l'envers du décor. Il y a vraiment un truc à la Once Upon a Time. Et je pense que c'est aussi cette idée de représenter, notamment dans la reconstitution des décors, qui est nickel dans le film. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce côté-là. Mais de recréer ce contexte et vraiment de ressentir, moi je ressentais la chaleur californienne. Quoi. Je ressentais un peu ces vibes d'été d'adolescent. Et c'est vrai que ça met une petite pince nostalgique quoi, au cœur. Ouais. Ça m'emporte.
Il y avait sa femme aussi d'ailleurs. Elle est encore dedans.
Maya Rudolph, qui vient faire un petit rôle.
Et juste par rapport à ce que vous venez de dire sur la nostalgie et le parallèle avec Tarantino, il y a un truc qui est marrant, c'est que ça a l'air d'être un peu à la mode, parce que je ne sais pas si vous avez dû entendre parler, mais déjà le prochain film de Spielberg, ça va être un peu sur, apparemment, sur, sur sa jeunesse, sur son et James Gray aussi, son prochain film va être
ouais, ils sont passés le mot.
Mais plus New York lui par contre.
Hein
plus plus
oui, oui. New York. Mais ouais, sur le côté années 80, ouais. Les années qu'ils l'ont vu grandir, le quartier qu'il a vu grandir, donc il y a un truc en ce moment chez les réals apparemment de nostalgie.
Bah oui, c'est
ils se disent tout le monde fait des trucs futuristes, nous on va retourner un peu aux sources.
J'ai beaucoup aimé le ton du film, moi ça m'a transporté. Et puis ouais, non, drôle, je l'ai déjà dit, mais j'ai trouvé ça vraiment
et il
très
a trop
drôle.
Bien le plan séquence du début, le premier plan du film.
Ouais. Oui, parce que voilà, en termes de mise en scène, on retrouve notre Paul Thomas Anderson qui est là et qui sait faire bouger sa caméra et placer ses personnages et du coup...
Et créer de la tension aussi.
Oui, c'est vrai qu'on retrouve de la tension dans le film.
Et ouais, je suis d'accord qu'on le retrouve et en même temps, je trouve que c'est son film le plus libre. C'est que j'ai l'impression que contrairement à There Will Be Blood qui est quand même très cadré, très pensé, limite storyboardé, je pense à l'avance et tout, là on a vraiment l'impression, et c'est peut-être une impression parce qu'il y a des décors des années 70 et tout, donc ça demande beaucoup de préparation, mais on a vraiment l'impression que des fois ils sont sortis avec la caméra et venez, on va tourner des plans dans la rue, on sait même pas ce qu'on va faire. Et j'adore cette liberté dans le film, ils sont tout le temps en train de courir, ils vont d'un magasin à l'autre, un quartier à l'autre, et ça m'a vraiment touché, enfin ça m'a fait le même effet que sur le tarot. Tarantino avec Once Upon a Time, c'est que c'est un grand metteur en scène qui tout d'un coup lâche les chevaux et se décomplexe un peu au niveau de la mise en forme du film et fait du chant contre chant, et c'est très bien. Et en fait, ce qui compte, c'est les personnages, et c'est un grand amoureux des acteurs. Enfin, on n'en a pas parlé, mais pour moi, l'alchimie des deux à l'écran, elle est évidente, alors que c'est c'était pas évident comme ça, ils sont au départ pas acteurs, ils ont jamais joué au cinéma, elle est musicienne, lui c'est le fils de Philippe Seymour Hoffman, il y a un truc, il fallait y penser quoi, et en fait c'est juste évident quand tu les vois ensemble, aussi bien dans les scènes de dispute que de complicité, il y a un truc qui se passe, et moi je trouve toujours ça émouvant de voir les premiers amours au cinéma, enfin les premiers pas d'acteurs qui vont probablement faire carrière derrière, et il a un truc où il a saisi, il a capturé des moments de vie entre eux, où tu sens que c'est très libre quoi en mise en scène. Et j'adore ça. Et après, c'est vrai qu'il y a tous les guests qui viennent un peu graviter autour, mais qui leur volent jamais la vedette. En fait, c'est que pour moi, vraiment, c'est elle le centre du film. Et bon, en plus, comme j'aime Haïm, c'est vrai que ça m'a vachement touché de l'avoir dans ce rôle. Et voilà, et je trouve que techniquement, ouais, il y a des plans séquences, mais en fait, on s'en fout. Enfin, ça m'a fait vraiment l'effet de ce qui compte, c'est l'histoire, ce qui compte, c'est les personnages, c'est cette histoire impossible, puis possible, etc. Et pourtant, on retrouve tous ces thèmes. Il y a la folie, il y a l'obsession, il y a l'humiliation. Mais jamais on les a vus comme ça chez lui, je trouve. Et pour moi, c'est vraiment un film majeur de sa filmographie. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire derrière.
Je rebondis juste sur un truc que tu as dit, parce que je l'ai lu récemment, pareil, en interview de Paul Thomas Anderson, quand tu dis sur les décors, la différence avec There Will Be Blood, sur la liberté qu'il a, et apparemment ça a été un truc assez important pour ce film. C'est que contrairement par exemple à There Will Be Blood, où ils étaient installés dans un ranch, et ils avaient vraiment leur studio, ou Punch Drunk Love, où ils ont pris un hangar, ils ont tout tourné là-dedans, ils ont pu refaire plein de trucs, repenser des trucs. Mais là, il expliquait que ce qui était très différent pour lui sur ce film, c'est qu'ils ont été obligés genre, ils avaient un jour une scène, un lieu, et ils changeaient chaque jour, et ils pouvaient plus revenir. Je pense que ça va aussi dans ce que tu as senti de
l'urgence de capter un moment.
Et pour ajouter là-dessus, j'ai lu aussi qu'il a tourné le maximum de scènes entre les deux, justement. Et il a fait exprès, en termes de planning, de faire venir les guests après. Parce que c'est comme s'ils interféraient dans la relation entre les deux. Même sur le tournage, ils avaient trouvé leur rythme de croisière. Et tout d'un coup, tu as un Sean Penn qui débarque et il faut que tu joues avec lui. Quoi.
Ouais, et puis pour qu'il soit pas trop impressionné de tout d'un coup jouer avec Bradley Cooper, Sean Penn. Ouais.
Et puis surtout qu'il débarque pour des scènes qui sont à la limite du what the fuck.
Pour moi, c'est des scènes cultes. Il y a des scènes cultes dans ce film, je
pense. Mais ça m'a fait penser aussi à Once Upon a Time in Hollywood. Et c'est peut-être pour ça qu'en voyant la BA, on s'est fourvoyé. On a cru qu'il y aurait vraiment une histoire de cinéma à l'intérieur. Ouais. C'est qu'en fait, ces scènes, quand c'est Sean Penn qui va faire son truc de moto, là, avec tout le monde en public, ou Bradley Cooper, là, qui est là en mode fou furieux, et ben à chaque fois, tu te retombes comme si tu étais dans des genres de films différents, comme dans Once Upon a Time, quand ils allaient au ranch de Charles Manson et tout. Voilà, d'un seul coup, c'est comme si le cinéma était dans la vraie vie, en fait. C'est digne d'un film.
C'est exactement ça. Ouais.
Ce que tu dis là, ça me fait penser à la scène où c'est juste après qu'il soit débarrassé du camion dans lequel il livrait le.
Ah, mais quelle scène, le camion.
C'est incroyable.
C'est une scène de fou. Et juste après, t'as Alana qui est sur le trottoir et derrière, t'as Bradley Cooper qui revient, qui pète une vitre, qui se casse. Et après, tu vois deux tenniswomen qui passent et lui, il revient en courant,
c'est incroyable.
Juste pour l'anecdote de cette scène, apparemment, c'est vraiment l'actrice qui a conduit le camion et qui s'est entraînée pendant des mois.
trop bien, fou, respect ça. La marche arrière.
Tout d'un coup, t'as ce moment suspendu où la meuf elle fait un créneau avec un camion, ça dure 10 minutes.
Incroyable, mais oui, mais parce qu'il y a une tension, c'est est-ce que le fou va revenir.
Il n'y a pas de musique, c'est que du son. C'est
après, la BO est exceptionnelle.
Mais en dehors de ça, même la scène où il se fait coffrer par les flics et qu'elle court pour le rejoindre et que d'un coup, t'as l'impression d'être dans un film dans la réalité. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, t'es en mode oula, ça dégénère et eux vivent le truc comme un film quoi. Après, quand ils se barrent en courant,
absurde quoi.
Il a toujours cette manière d'articuler les séquences entre elles qui est vraiment unique, c'est que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer après. C'est genre, à chaque fois, c'est un peu déstabilisant. Ah, ok, je voyais pas cette scène comme ça et tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment dans tous ces films.
Ou dans les dialogues. Ouais. Bref, il y a plein de trucs. Et je me demande si c'est pas des petits souvenirs biographiques, tout ça, tu vois. Parce que je sais que l'idée de la rencontre, le fait que ce soit l'assistant du photographe dragué par un enfant de 15 ans, ça c'est un truc qu'il avait vraiment vécu. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas plusieurs scènes comme ça, comme des pièces de puzzle qu'il a imbriquées lui dans son film, juste en étant des souvenirs qu'il a peut-être fantasmé ou retravaillé pour le cinéma. Mais c'est vrai que
il s'est beaucoup inspiré des souvenirs d'un ami à lui qui est dans un producteur, qui est devenu producteur, un mec qui s'appelle Gary justement. Il a basé pratiquement, enfin la plupart de, en gros c'est un mix entre ses souvenirs à lui, son souvenir, mais énormément ce mec là était un acteur enfant.
Ça
se base beaucoup sur les souvenirs de ce gars là.
Je crois qu'il a dit qu'il a vu draguer avec beaucoup d'aplomb justement une nana beaucoup plus âgée que lui
aussi,
et il sait pas pourquoi ça l'a marqué. Il s'est dit un jour je vais mettre ça dans un film.
Ouais, mais tu ressens cette sincérité de Paul Thomas Anderson dans ce film-là, dans ce qu'il veut montrer et dans ce qu'il veut nous faire découvrir.
Il y a un autre aspect du film qui m'a... Enfin, c'est pratique... D'ailleurs, c'est la première impression que j'ai eue en sortant, c'est le premier effet qu'a eu le film sur moi. C'était un film un peu surréaliste et je ne sais pas si ça vous a marqué, mais par exemple, les ellipses dans le film, il y a énormément de moments où on passe d'une scène à une autre et on ne comprend pas trop.
Et tu te demandes même sur le moment, est-ce qu'il s'est passé un an
ou des années, et on s'en fout.
Je pense que ça participe au côté cotonneux du film, au côté un peu... et après, en y réfléchissant, au côté un peu... Il y a une sorte d'atmosphère un peu onirique, un peu de rêve. Peut-être que ça a aussi retranscrit déjà à la fois peut-être le flou un peu des souvenirs, tu vois, que peut avoir le réel, et aussi peut-être l'univers des enfants, un truc. Moi ça m'a fait penser à un conte, il y a vraiment un côté enfantin dans tout ça, et je pense que peut-être que ces ellipses justement, ce flou, c'est une sorte de rêve un peu.
Raison, en plus j'ai l'impression que le film en joue même concrètement quand il y a une scène où Alana donne son âge, où elle dit qu'elle a 28 ans. Et alors que plus tôt dans le film, elle dit qu'elle en a 25.
Ouais.
Et après, dans cette scène-là, donc la deuxième, elle se recorrige en disant « Ah non, j'ai pas 28 ans, j'ai 25 ans. » Et tu sais pas, en fait, si elle ment sur son âge depuis le début, si c'est passé 3 ans. Et en fait, t'es vraiment, tu sais pas.
T'es perdu.
Tu es un peu perdu dans la temporalité.
T'es totalement perdu, mais au final, ça ne change pas.
Quelle belle perte.
Tu retrouves la sortie du labyrinthe, c'est ce que je disais.
Si je peux dire un truc quand même pour être sympa avec Gary, parce que j'ai l'impression de l'avoir.
Bah oui,
il a une bonne boue.
En fait, j'ai repensé pendant que vous parliez à la dernière scène. Et alors, c'est vrai que quand il se retrouve en courant et qu'ils reviennent tous les deux à la soirée Flipper, au début il fanfaronne en la présentant comme un trophée, mais juste après il revient vers elle lui dit crétin, elle se barre, et là il va vers elle et il l'embrasse, et finalement ce dernier geste est beaucoup plus sincère, et je pense que c'est ça en fait l'équilibre qu'il y a dans ce personnage chez lui, c'est qu'en fait il l'aime au fond,
mais souvent
il veut fanfaronner et il a des moments où il montre son amour, même quand il court vers elle quand elle est tombée de la moto ou quoi, ce qui à chaque fois la fait revenir vers lui aussi, c'est parce qu'elle le sent,
mais il a un côté petit con quoi, faut qu'il drague,
il a 15 ans,
oui c'est ça, il est quand même mûr pour ses 15 ans,
pour moi c'est son âge,
il a monté 3 boîtes,
mais ça aussi ça participe au truc un peu surréaliste. Tu dis que c'est pas très crédible.
Les gars, ils montent des entreprises comme ça et on s'en
rend. Il est même pas majeur.
Parce que la rencontre, elle se fait au lycée et après, le mec ne va plus jamais au lycée. Après, il est entrepreneur, le gars.
Il est plus jamais acteur.
C'est ça, il est entrepreneur, le gars.
Si, il y va pour donner des tracts de son entreprise.
Oui, c'est ça.
De Flipper et de l'IAO. Ah là 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 là. Bon, écoutez, c'est un film qui a l'air de vous avoir bien plu. Ça fait plaisir de voir des sourires, Martin. Oui, une dernière chose.
Il y a un truc qui m'a marqué pendant le film et ça rebondit sur ce que tu viens de dire aussi, Clémence, c'est sur le coup, je me suis dit, mais quand ils se rejoignent, bon, cette fameuse scène de course, Paul Thomas Anderson dit qu'il adore les scènes de course dans les films, pour lui, c'est un truc, c'est pour ça qu'il y en a autant dans le film. Donc, il court, spoil, il se retrouve et devant une énorme affiche de Live and Let Die, mais on voit que ça, quoi. Donc, sur le coup, vraiment, c'est énorme. Et après, je me suis dit, en fait, c'est peut-être une sorte de morale au film, en fait, parce qu'en fait, Live and Let Die, ça veut dire. En gros, vis vite, enfin, c'est comme ça que je le traduis moi, vis et un peu laisse mourir les choses. Et en fait, je trouve que c'est une sorte de morale du film, dans le sens, les jeunes, Kiffez votre truc et laissez l'ancien monde, laissez les trucs, grandissez et laissez un peu derrière vous ce qui va pas, que ce soit au niveau familial.
Prenez le
pour
temps
elle.
Pour vivre et arrêtez de réfléchir.
Mais peut-être que même il y a un parallèle entre cette société qui critiquait un peu des années 70 et eux, leur côté conte de fées d'amour en fait. Et
oui,
c'est ça, c'est peut-être juste leur histoire d'amour qui a des obstacles parce que lui, il est construit par cette société et tout.
Mais
et
c'est encore une fois, c'est vraiment pratiquement la conclusion de
C'est être sincère, finalement, soyez sincère.
Ça, c'est une des forces des films de Paul Thomas Anderson, c'est qu'au premier abord, bon, le film il se tient en lui-même, mais quand tu vas gratter un peu, tu te rends compte qu'il y a plein de surfaces sur lesquelles tu peux trouver des pistes d'analyse et toujours en retirer du nouveau. Et ça, c'est super intéressant au cinéma. Et quand c'est bien fait, c'est top.
Et juste un tout petit dernier truc, parce que j'ai trouvé l'hommage, je l'avais pas dû se capter. Après avoir vu le film, donc je me suis un peu renseigné, j'ai vu des trucs et ça faisait souvent référence. Beaucoup de critiques ont fait le parallèle entre ce film et un film que j'ai pas vu, qui est American Graffiti de Coppola. Et donc j'ai commencé à regarder le film, je l'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps. Alors c'est marrant parce que déjà, le film commence par. Il y a vraiment deux au moins références complètement assumées, c'est que le film American Graffiti commence pratiquement par une scène d'explosion de chiottes. Donc comme dans et surtout le premier panneau, et ça c'est marrant, c'est vraiment une référence, une belle référence je trouve, d'American Graffiti. C'est exactement la même typo que Licorice Pizza, à moins que je me plante, mais ça je voulais vous demander, c'est bien le générique, c'est bien tout noir avec un générique en vert, les lettres. Le premier plan d'American Graffiti, c'est exactement la même.
C'est une citation ouais.
Quand je l'ai vu, je fais ah oui, c'est exactement la même chose en fait.
Eh bien écoutez, on commence l'année avec un bon padouille, un bon film qui nous a
fait plaisir.
Ouais, pour l'instant top 1 2022.
Ouais.
Voilà.
C'est pas bien compliqué.
D'ailleurs, American Graffiti, maintenant que j'y pense, c'est rigolo, c'est un mec vieux avec une fille jeune. C'est l'inverse.
Oui, d'ailleurs, en sortant du film, j'ai dit à Clément que j'ai bien aimé que ce soit elle qui soit plus âgée.
Bah ouais, clairement, ouais. Ça change.
Ouais.
Harold Desmodes, hein, la base.
Ah oui, oui.
Toujours.
Ouais, grave. De ouf.
Voilà. Hein, Clément,
oui, ce DVD qu'on n'a pas encore regardé.
Ouais, j'ai maté il n'y a pas longtemps, ça.
Que ça fait 5 ans que vous l'avez chez vous, que vous ne l'avez pas rendu. Bon, écoutez, on va passer du coup à la revue de presse, parce que ça, c'était nos avis à nous personnels. Hein. Évidemment, vous aussi, on vous invite à aller voir le film. Évidemment, on vous le recommande, mais c'est plus simple pour vous, à mon avis, de vous faire votre propre avis, car ce sera l'avis qui vous parlera le plus, évidemment. Mais on va aussi s'attarder sur les avis de la presse avec Kevin, et c'est tout de suite.
La revue de presse, c'est une revue de presse très chiante, tout le monde a aimé.
Oh merde.
On peut pas rigoler si tout le monde aime.
On inventera des revues si tu veux.
T'inquiète, on va inventer des fausses critiques. Alors bah oui, bah, niveau notes, bah voilà, c'est des très bonnes notes. Rotten Tomatoes, c'est 92%.
Yeah.
Metacritic, c'est 90%. Wow. Allociné, c'est 4,5 sur 5.
Wow.
Voilà, c'est...
Attends, c'est énorme hein, sur Allociné, 4,5.
Ah oui, c'est énorme. Il n'y a pas une critique en dessous de 4. Du coup.
Wow. En fait. Eh ben.
Mais bon, je vais commencer par vous lire la critique de Bande à part.
Ah. Yes.
Les copains.
Les matheux.
Mais il n'y a plus de maths. En fait, il y a eu une fois des maths et maintenant il n'y en a plus.
C'est trop tard, c'est resté.
On a un SDA sur Bande à part à chaque
fois. Je suis assez déçu, quoi. Alors, donc ils nous disent Licorice Pizza n'a rien d'un film nostalgique. Au contraire, cette comédie cadencée donne à voir un monde où la vigueur règne en maître. Libre à nous d'aller boire cette source aromatisée, la réglisse est connue pour ses propriétés digestives. Et d'en tirer.
Non, mais ils cherchent aussi.
Non, mais ils sont incroyables.
Et d'en tirer l'énergie nécessaire pour affronter notre monde actuel. Et ses affres d'ampleur ici et maintenant.
Ok, ouais, bon, c'est des poètes quoi.
Mais ils sont aussi nutritionnistes.
C'est des poètes.
Ouais. En fait, j'ai l'impression que chaque critique c'est une nouvelle discipline. Tu sais.
La semaine prochaine, histoire géo.
Mais toi, j'ai pas lu le concept du journal. Peut-être que c'est des gens qui sont pas journalistes mais qui viennent de corps de métiers différents. Qui...
La vie d'un plombier. Une tuyauterie bien tuyautée. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à la réglisse, parce qu'ils font appel à la réglisse, on le ressent du coup beaucoup plus dans le film, le rapport à la réglisse, pizza à la réglisse, le fait qu'on avait rapproché ça, nous, du vinyle, qui ramenait forcément à la décennie 70, mais aussi aux matériaux dans lesquels est construit
le matelas
à eau. Qui est en vinyle. Donc du coup, vu la crise pétrolière, ils sont obligés d'arrêter leur
business. J'ai même lu, après avoir vu le film, que Licorice Pizza était le nom d'un magasin de disques qui a vraiment existé.
Oui, où allait le réalisateur.
Mais pas de référence du coup à Licorice Pizza directement dans le film.
Et non. J'enchaîne avec les cahiers du cinéma. Licorice Pizza vous laisse dans un état de sidération douce et paradoxale. Douce en raison de la douceur du film lui-même, paradoxale tant on ne sait trop ce qui sidère ici, de la maîtrise d'un cinéaste sûr de son geste comme jamais, ou de la simplicité désarmante qui en est devenue l'horizon.
Eh ben c'est beau, c'est très bien dit.
C'est beau.
Et c'est ça, paradoxal.
Ce sont des journalistes.
Ressenti paradoxal, ouais, carrément.
J'enchaîne avec positif, étrange, foutraque, insaisissable. Licorice Pizza est à l'image de cette ville extraordinaire, guirlande de lumière bigarrée, posée au bord du Pacifique. Cette Licorice Pizza ressemble surtout à son titre énigmatique, monstrueux et canaille.
Canaille,
ah, c'est canaille.
Ils l'ont placé.
Il serait pas un peu filou ce film.
C'est canaille.
Il se touche un peu quand même.
C'est... Bon, oh, tu sais.
C'est canaille quoi.
Canaille plus.
Monstrueux, allez. J'ai du mal, mais je comprends pas. Mais oui, effectivement. Première, c'est Johanna qui a écrit la critique. La pizza hors église n'est pas une enseigne. Point. La pizza hors église n'est pas une enseigne, pas un nom de code pour apt few, mais un état d'esprit. Elle désigne le monde irréel des souvenirs, ce sentiment que tout peut arriver et que l'été pourrait ne jamais finir. Une croyance adolescente que peu de films ont aussi glorieusement capturée que celui-ci. Ah, c'est beau, ils sont gentils.
Ah, mais non, mais c'est de la maîtrise. Hein. C'est de la maîtrise pour faire ressentir ça à travers une pellicule. Quoi. C'est... Ah non, mais moi, ça me sidère à chaque fois.
C'est vrai. Hein.
Écoute, vraiment, ça me sidère à chaque fois les réalisateurs qui réussissent à, te, bah, à t'emmener dans ce qu'ils ont en tête. Quoi. C'est, avec les outils du cinéma, c'est compliqué. Tu vois, enfin, je sais pas, ça me rend ouf. Quoi. Non, mais j'imagine un peintre face à son tableau. Et ben, c'est la même chose pour un cinéaste. Enfin, c'est... Bref, je suis en train de partir là.
Ouais. Tu veux qu'à t'inquiéter ?
Je m'envole. Tu veux qu'à t'inquiéter ?
Allez, j'enchaîne avec Voici. C'était bien. Non, j'éconne. Ils ont écrit « Dans le Los Angeles des années 70, la romance contrariée mais solaire entre Gary et Alana fait des étincelles, leurs interprètes affichant une assurance et un charme de superstar. Ça y est, ils préparent les photos. » J'enchaîne avec Écran large. Les années 70 s'en prennent pour leur grade. Sexisme, racisme ordinaire, violence policière, crise pétrolière. Et PTA n'est pas tant nostalgique ou mélancolique. Il a plutôt l'allure d'un grand rêveur persuadé qu'on peut encore faire des films de cinéma dans leur plus simple forme. Raconter une histoire, des histoires, grâce à la force de nos souvenirs.
Ouais.
Oui. Ça, c'était bien. Comme critique.
Ouais, et toute la critique est très sympa. J'ai beaucoup aimé.
Clément,
critique.
C'est critique de critique.
critique.
Ça, c'était une belle.
Elle fait de l'épistémologie de critique. C'est un truc de fou. Libération. Ah, alors. Libération, je fais une petite pause. Libération, c'est les poètes.
Ok, comme les autres.
Bah là, pour l'instant, on a que de la poésie.
On est dans la poésie.
Allez.
Ok, là, c'est Victor Hugo.
Quand le ciel.
C'est de la poésie. Alors. Licorice Pizza ruisselle de nostalgie luisante, semblant reconstituer l'expérience d'une totalité perdue, en même temps qu'il s'en libère à chaque plan, laissant l'âge d'or chelou qu'il arpente retourner au néant qu'il remue.
Ok.
Wow. C'était des Alexandres.
Et casé chelou, il fallait le faire.
Ouais. Ils ont casé chelou.
Ouais.
Ça, c'est la poésie,
bravo,
et je m'arrêterai là-dessus.
Bravo,
Libération.
Bravo, Libé.
Libé. Libé, Victor Hugo, je ne sais plus. Je confonds.
Nous ne savons plus qui parle. Qui parle.
Du coup, qu'est-ce qui t'a chafouiné quand t'as fait la revue de presse avant d'aller voir le film ?
Mais non, parce que comme il y avait que des choses dithyrambiques, je m'attendais à sortir en mode waouh, je suis dithyrambé, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé le film, mais du coup, je m'attendais à un truc qui me.
Ah bah ça, c'est toujours le problème.
Ah bah ça, c'est le principe de
c'est
la
SDA.
Je lis jamais les critiques avant
parce que j'avais
voir,
pas le choix de le faire avant, parce que le film, je pouvais le voir que ce matin. Donc,
Eh bien, merci de ton courage.
Bravo. Voilà. Bravo, tu t'es sacrifié.
Merci,
pour
ce que j'allais dire, merci de ce sacrifice.
Ça m'a pas empêché d'aimer le film, tu vois, comme quoi.
Ah bah ça fait plaisir. Écoutez, je pense.
Allez-y, voilà.
Oui, allez-y. Non, mais bien sûr, allez-y.
Maintenez cette salle 10 pleine.
C'est une bonne porte d'entrée.
Ouais,
pour
et
PTA.
Puis c'est un très bon date. Hein. Pour ceux qui sont là en train de chercher des dates,
très bon
vous emmenez voir Licorice Pizza à votre date et vous allez ken quoi. Je savais pas comment terminer la
phrase. Si t'as un business plan pour des matelas à eau, tu peux y aller aussi.
Aïe, aïe, aïe. Bon, je pense que pour terminer cette belle émission, on va terminer en jeu.
Allez.
Oui. Parce que qui dit Martin dit jeu.
Yeah.
Mais allons jouer autour de l'univers de Licorice Pizza ou Paul Thomas Anderson. Enfin, je suis pas au courant du tout de ce qui va se passer. C'est parti, c'est le quiz de Martin.
Le quiz réglisse.
ce jeu n'est pas très très éloigné du jeu romain que tu avais proposé lors de la BA de...
Ah, le jeu du Anderson ?
Oui, tout à fait.
Ah oui.
Parce que qu'est-ce qui caractérise Paul Thomas Anderson ?
C'est qu'il s'appelle Anderson.
Le nom composé ?
C'est qu'il a deux prénoms.
Mais non, j'ai dit ça pour rigoler.
Comme Thierry Henry ou Abdelkader.
C'est vrai qu'il a deux prénoms.
Ah, j'ai cru que t'allais faire que des gens avec trois noms.
Il a même trois prénoms.
Tu sais, trois noms.
Ah oui ?
Oui, Paul Thomas et Anderson.
Anderson, pas que c'est un musicien.
Ça marche en prénom.
J'aime beaucoup en plus.
Eh
bien, je vais vous poser... En fait, je vais vous dire un mot. Et la réponse qu'il faudra donner, ça sera soit Paul, soit Thomas, soit Anderson.
Ah, d'accord.
Oh. Okay. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va dire une évolution
du jeu.
Comme
dans le Burger Quiz, j'aime bien.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Okay, la réponse, c'est soit Paul, soit Thomas, soit Anderson.
Soit les trois ?
Peut-être. Ah. Attention, un extraterrestre.
Paul.
Oh, il est chez Clémence.
J'avais pré-shot.
Il est chez Clémence.
J'avais pré-shot.
Oui, en effet, bah, le film avec Edgar machin. Là,
ah, super beau
non,
film.
Non, avec Simon Pegg et Nick Frost.
Non, il n'y a pas d'Edgar Wright dans celui-là, justement.
Il n'est pas là,
non, non, j'ai
il
confondu.
Est absent.
C'est pour ça que le film n'est pas ouf.
C'est pour ça que c'est pas ouf, ouais. Mais il y a Sigourney Weaver.
Attention, un magnum.
Thomas. Bah oui, c'est son nom.
Quoi,
c'est son Thomas
nom.
Magnum.
Ah oui, Thomas Magnum, ouais.
On l'a le jingle.
Quiz de Martin.
Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser qu'il y aura peut-être des réponses extra cinéma ou extra série dans ce quiz.
Mais je t'en prie.
Mais nous, on ne parle que cinéma, on ne sait rien parler d'autre.
On ne sait rien parler d'autre.
Je ne connais aucun autre sujet.
Il y a d'autres trucs qui existent.
Il y a d'autres arts.
Attention. Un Shelby.
Thomas.
Ouais, c'est Thomas Shelby.
Pas Peaky Blinders.
Peaky Blinders,
c'est de quoi on parle.
C'est un point pour Kevin.
Tommy. Peaky Blinders, la saison 6 bientôt là.
Ah ouais, elle arrive, je suis chaud.
Ils ont sorti d'ailleurs une BA que j'ai pas regardé encore.
Un Lyonnais brésilien.
Anderson.
Pourquoi ?
Ouais. Sonny Anderson.
Sonny Anderson,
Karim.
Ah,
foot, je prends.
En effet, bien joué. C'était donc Sonny Anderson, le joueur qui avait notamment joué à Lyon, à Marseille, etc.
Qui a mis plein de buts.
Brésilien.
Et qu'on adore en consultant.
Enfin, qui est toujours, mais on comprend pas ce qu'il dit en consultant.
Ouais, c'est pour ça qu'il me fait taper des barres.
Attention. Un boulanger.
Paul.
C'est en même temps.
Parce que je l'avais pré-shot.
C'est en même temps.
Oui,
bon, ça n'est pas d'explication.
Oui.
Programmateur informatique.
Thomas Anderson.
Les deux marchent, mais c'est Clément. Clément qui a dégainé en premier. Il y avait deux réponses possibles. En effet, on nous faisait référence évidemment à
Neo,
Matrix,
Sinio.
Oui, bien sûr. Un fils de Jacques.
Pierre-Paul Jacques. J'ai pas compris le jeu.
Un fils de Jacques.
Un fils de Jacques Audiard et. Bah du coup son
Paul
fils.
Paul Jackson.
Ouais moi je cherche Jackson.
Fils de Jacques.
Bon vous l'avez pas.
Michael.
Bon vous l'avez pas c'est pas grave.
C'est un Jacques connu qu'un.
Jacques Dutronc, Thomas Dutronc.
Ah
putain j'étais dans Jackson
oui.
Moi.
Oui moi aussi je cherchais un Jackson.
Ah ouais.
T'es trop international.
Bien sûr.
La musique.
Là il est un peu technique celui-là mais bon il me faut l'explication parce que sinon un petit ami de Phoebe.
Paul Rudd.
Oui, carrément.
Il est bon,
mais c'est Mike.
Le mari.
Le mari, c'est vrai qu'il se marie.
Oui, je l'ai dit juste après toi.
Oui, donc on explique quand même, c'est Paul Rudd, donc l'acteur qui joue notamment la guêpe.
Ant-Man. Qui joue le prof de physique dans Ghostbusters.
Voilà.
Oui.
Et qui est donc le petit ami de Phoebe.
Voilà,
dans les
qui deviendra son mari, spoiler.
Mais non.
À la Barbade. Wow, demande de... Allez.
Il en reste trois.
Yeah.
Il en reste trois. Un maître d'hôtel hongrois.
Anderson.
Un maître d'hôtel hongrois.
Il est américain. Wes Anderson.
Grand Budapest
Hôtel.
Tu écoutes quand on te.
Oh là là.
Mais le film, il se passe où ?
Ah bah, dans un hôtel.
Il est très grand.
Il faut faire un point sur les scores là.
J'ai 3.
Oui.
J'ai 1.
J'ai 1.
Je sais plus.
J'ai 1.
Ok. Clément mène la danse. Il en reste 2.
Tout peut basculer.
Un mauvais résident.
Paul W.S. Anderson.
Mais oui,
Resident
complètement.
Evil. Putain, Resident Evil.
Ah, Resident oui. Evil.
Bien
ça
joué.
Part dans tous les sens.
Il nous a fait une québécoise.
C'est culture
pas
générale. Un mauvais résident.
Le mauvais résident, t'as vu, l'eau.
Donc, tu reviens à 2 points.
Ouais.
Mais il se trouve que la dernière question est à 5 points.
Ah, c'est pas ça, mais à chaque fois.
La dernière question est à 5 points.
Ah.
Attention. Un bikini rouge.
Anderson, Pamela Anderson.
Pamela Anderson. Oh, ouais.
Elle a la remontada
la du jour. De Clémence.
La revanche remontada, bravo.
La revanche des blondes.
Pamela Anderson.
La revanche une blonde.
Bravo.
Eh bien, bravo.
Bah, bravo. Ah, excellentissime.
Les Clem excellent au quiz. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? That's life, that's life. Bah bravo, bravo Clémence, merci Martin pour ce quiz.
C'était fort drôle.
Ben, je pense que sur ces bonnes paroles, il est déjà temps pour nous de mettre fin à ce match retour.
Mais c'est pas vrai.
Non, non, on peut pas faire un autre match retour.
On pourrait dire qu'on a vu un autre film.
Moi j'ai vu un autre film.
Allez, au revoir. Voilà, c'était le match retour du PTA Paul Thomas Anderson Licorice Pizza qu'on vous conseille d'aller voir car c'est un très bon film sur lequel vous pourrez pécho si vous voulez et plein d'autres choses.
Ça, c'est
évidemment
une critique à mettre sur le poster.
La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va match retourner, les copains? C'est Kevin, le teasing de Kevin. Oui, ça va crier parce qu'effectivement, on va aller faire un tour du côté de l'univers de Wes Craven. Sans Wes Craven, malheureusement, car il sera temps de passer à Scream 5. Scream tout court. Voilà, ben c'est fini. Merci, retrouvez-nous sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, les plateformes d'écoute, notre site internet fetaba.fr. Et à très vite. Des bisous, bye bye.
Au revoir.
Bisous.
Ouais.
Au revoir, bisous.
Prenez
bisous,
soin
hein.
De vous.
Arrivederci. 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 Arrivederci.